France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire. D'observer un moment de silence.
Méfiance, distance, silence. Trois règles d'or pour cet artiste qui échappe à toutes les définitions. Un grand mystère pourtant raconté dans un film. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Oui, un film qui retrace sur quatre années de 61 à 65 la naissance d'un génie, Bob Dylan. Nous avons rencontré son réalisateur James Mangold. Dans son film Un parfait inconnu, il explore ce talent inné, source pour Dylan de joie et de détresse. Dylan, incarné et chanté par Timothée Chalamet. Pour encadrer ce film et cette histoire, un dylanophile avec nous ce matin. Bonjour Olivier Nuc.
Bonjour Christine, bonjour Laurent.
Bonjour Olivier.
Chef du service musique au Figaro, oui, parler de ce film avec vous et des autres aussi, fiction et doc sur Bob Dylan, Un parfait inconnu, sur nos écrans depuis mercredi. Et puis d'autres films, bien sûr, du Jardin Zen à la Pivoleuse. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Your friend is out back.
My friend?
Said he was a friend of yours. Guy in a suit.
Oh, it's fairly well, my darling true. I'm leaving in the first hour of the morn.
What you do? Make fun of folks up there?
Un jeune chanteur folk croise Bob Dylan à ses débuts sur une petite scène de Greenwich Village. C'est la dernière scène du film Inside Llewyn Davis des frères Cohen qui racontait l'échec de ce musicien. Alors pourquoi, à la même époque, un type comme lui va réussir et devenir une icône? C'est la question que pose ce film, Un parfait inconnu de James Mangold. Un axe passionnant, Olivier Nuc, ses premières années à Greenwich Village, à New York, une scène musicale en pleine effervescence.
Ce qui est intéressant, la question que posait ce film et à laquelle répond en partie Un parfait inconnu.
Oui, c'est une question-réponse, les deux
voilà,
films. Ouais.
C'est à quel point Dylan, il est malin, évidemment, et il sait que économiquement, c'est plus facile d'arriver tout seul avec une guitare parce qu'on n'a pas à nourrir un groupe. Il voit le contexte qui est au folk. Je pense que s'il était né en Jamaïque 10 ans après, il aurait fait du reggae. Voilà. Je pense que Dylan, il embrasse le folk parce que c'est une opportunité à ce moment-là pour lui. Et qu'il est génial de toute façon, qu'il aurait été génial dans n'importe quel environnement. Et c'est ce que dit le film, parce que dès le début, on nous prévient, attention, je ne suis pas celui qui va endosser le manteau de sauveur du folk. Alors qu'on l'a cantonné à ça, et qu'on continue de lire des papiers aujourd'hui dans la presse, en nous disant, Dylan, le merveilleux bar de folk. Non. Non. Suffit.
Dylan a 19 ans, donc débarque du Minnesota pour rencontrer son idole folk, Woody Guthrie, qui va l'adouber, ainsi que Pete Seeger, qui est un peu le gardien du temple du folk. Ce serait un peu lui, le Salieri de l'histoire, quand on sait que Amadeus est un film référence pour James Mangold, le film de Milos Forman. En fait, ce film, Olivier Nuc, c'est raconter le génie par la bande.
C'est très malin comme structure.
Ouais.
C'est très intelligent, parce qu'effectivement, ils ont tous un intérêt là-dedans. Ils ont un intérêt. Seeger, son intérêt, c'est que ça marche et qu'on parle du folk. Et donc, il va adouber ce jeune homme, mais l'adouber en même temps, essayer de le circonscrire à un genre, circonscrire à une esthétique, et de dire, attention, mon petit gars, on veut bien être derrière toi, mais il faut pas franchir la ligne blanche. Quoi. Et il y a cette scène géniale au début du film, où ils sont dans la voiture de Seeger, et à l'autoradio, il y a une chanson pop ou rock, et Dylan lui dit, ah, mais moi, j'adore ça, j'ai vu Little Richard quand j'étais gamin, j'adore Buddy Holly, etc. Et l'autre tic et dit, attention, mon petit gars, faudrait rester dans les clous. C'est l'histoire de Dylan, c'est le drame de Dylan, d'une certaine manière, et c'est pourquoi il va tout faire exploser à la fin du film. Je sais pas si on peut raconter, mais...
Pas trop. Son génie, c'était d'intégrer, d'absorber, de comprendre, et d'aimer tout ce qu'il entendait, et après, de le recracher, en fait, non ?
Complètement. C'est un observateur né. C'est quelqu'un qui a toujours une longueur ou deux d'avance sur les autres, et les autres le comprennent pas tout de suite. Joan Baez non plus, elle le comprend pas. Mmh. Elle a compris beaucoup de choses de lui, mais elle comprend pas qu'il est en train de la ringardiser totalement. Ça lui échappe, mais parce qu'il arrive avec ses chansons à lui et qu'il fait pas partie de la bande, et il fera jamais partie de la bande. Aucune bande, d'ailleurs.
Il a profité d'un milieu, d'un contexte, d'une ville, de tout.
Tout.
Il avait ça en tête avant ou
Non, probablement pas. Probablement pas.
Je pense qu'il a suffisamment de génie pour être en avance sur le jeu, quoi.
Oui,
sur la partie en cours.
Il est tombé amoureux du folk quand il a découvert la chanteuse Odetta, qui est absolument géniale. Et avant, c'était un fan de rock'n'roll. Il s'est dit, il y a un truc à creuser là-dedans, mais je vais pas faire ma vie là-dedans non plus.
Drôle parce que vous décrivez vraiment un opportuniste, hein, quand même. Hein.
Assez, oui, ah ouais. Oui.
C'est pas l'image qu'on en a. Hein.
Non, ça n'empêche pas d'être un génie. Attention.
C'est là où il est très fort, ceci dit, de brouiller les images et de ne pas laisser passer les pires.
Et c'est là où Llewyn Davis n'est pas fort du tout, c'est-à-dire le petit chanteur folk qui s'aperçoit qu'il y a un génie en face, mais il se dit, mais il est pareil que moi, ce mec, il arrive avec
sa guitare.
C'est ça qui est fou.
C'est Dave Van Ronk, hein, le modèle de Llewyn Davis.
Oui.
Qui est un génial chanteur, qui est meilleur chanteur que Dylan, qui est meilleur guitariste que Dylan, mais qui n'écrit pas de chansons. La force de Dylan, c'est d'écrire des chansons qui transpercent tout, et des chansons visionnaires, des chansons qui révolutionnent tout.
Dans une époque pleine de bouleversements sociaux et politiques.
Oui. Qu'il anticipe aussi grandement. Enfin, il est vraiment les droits civiques, il est ce petit blanc du Minnesota... Il est les pieds dedans. Il a chanté la marche sur Washington. C'est inouï. Il fait partie de l'histoire. À 21 ans, il est dans la grande histoire déjà.
Et pourtant, il se revendique pas chanteur politique.
Pas du tout.
Donc il y a un hiatus.
Il y a cette conférence de presse connue où on lui dit qu'est-ce que vous êtes un chanteur. Il dit I'm a folk and dance. I'm a dance man. Enfin, je suis un chanteur et danseur. Ce qu'il est un peu. Il a une gestuelle très particulière sur scène, mais toujours cette manière de dire non, me mettez pas dans une case, en tout cas pas celle-là. Il échappe toujours, il continue d'échapper. C'est génial.
Chalamet est magnifique, parce qu'il compose, mais il ne singe absolument pas Dylan.
Non, mais la silhouette, la démarche, le regard, on y croit, il est Dylan. C'est prodigieux, hein. C'est magnifique travail de comédien.
Et travail de
à la voix aussi, bien sûr. Et encore plus Monica Barbaro, parce que chanter Dylan, c'est pas si compliqué. C'est pas... Mais chanter Joan Baez... Alors Joan Baez a réagi hier en saluant la performance de Monica, alors qu'elle avait pas du tout commenté le film jusque-là.
Ah ouais.
Elle l'a fait juste pour... On sait pas si
elle s'est commentée elle-même, quoi.
Oui, d'une certaine manière. On sait pas si elle a pas aimé le film. Je pense pas qu'elle a aimé le film. Je pense pas qu'elle puisse aimer.
Ouais. Bon, l'image est pas extraordinaire.
Non, c'est pas génial.
Non.
Juste avant d'écouter James Mangold, on va faire un petit point quand même sur Newport. Qu'est-ce qui s'est passé en 65? En fait, Dylan a branché sa guitare électrique alors qu'on était en pleine célébration du folk.
C'est sacrilège.
Mais 65, c'est l'année tournante, c'est l'année de Satisfaction des Stones, c'est l'année, il est dans l'air du temps, et puis il a envie. Surtout, ce qui est frappant, ce que m'a dit Mangold, moi, qui est intéressant, il m'a dit, mais il était tout seul à tout assumer depuis des années, vivre cette célébrité tout seul, c'est ce que disaient les Beatles, ils disent ce qui nous a sauvés, c'est qu'on était quatre, il y en avait toujours un pour nous faire redescendre. Là, lui, il est tout seul. Il prend pas la grosse tête, mais il est malheureux, il est seul. Il se dit, je vais prendre des gens de mon âge. Donc, il prend de jeunes musiciens, comme Mike Bloomfield, qui est un génial guitariste de blues. Il dit, on va s'amuser, les gars. Ouais, on va on va foutre un peu le boxon, quoi. Et c'est joyeux, c'est bien. Mais le problème, c'est que les orthodoxes du folk, Alan Lomax et tous ces vieux, ils sont barbants, quand même. Ils sont pénibles. Pour eux, la musique doit pas avancer, doit pas évoluer.
James Mangold, moins connu que d'autres cinéastes américains de sa génération, comme Fincher ou Tarantino, mais pas moins passionnant. Mangold, réalisateur notamment de ce très beau biopic sur Johnny Cash, Walk the Line, d'un polar très noir avec Stallone et Copland, ou du Mans 66, d'un genre à l'autre, avec de la cinéphilie vraiment en réserve. Voici James Mangold, traduit par Bart Aben.
I want to tell you a little story. A few months back, my friend Woody Guthrie and I, we met a young man. He dropped in on us out of nowhere and he played us a song. In that moment, we got a feeling we were getting a glimpse of the future.
J'essaye de construire des fables, des histoires. Of Dylan's des life contes de fées,
en l'occurrence sur la vie de Dylan et la carrière de Dylan.
But also, I am trying to capture the feeling.
Ce que j'essaie de faire également, c'est de capter l'émotion.
If you want l'émotion the facts, de l'instant. If you want the timeline,
si vous voulez de l'information sur la discographie, sur
footage,
des informations historiques, du documentaire, des enregistrements, tout est là, tout est disponible. Ce que moi j'ai essayé de capter, c'est ce que l'on aurait pu voir ou ressentir en y étant, sur place, lors des enregistrements, pas forcément quand la caméra tourne.
Donc le défi, c'était d'être entre la démystification et la géographie.
Alors c'est intéressant, je n'ai jamais pensé à la géographie. Ce que j'ai voulu faire, c'est raconter l'histoire telle que moi je la voyais. Bob Dylan ne m'a jamais dit qu'il avait un problème avec telle ou telle partie du script, que ce soit positif ou négatif, flatteur ou pas.
Sympathetic attitude toward Dylan, or I think it looks very sympathetic only
because on peut avoir l'impression que je l'ai flatté, que j'ai été sympathique avec lui. Il se trouve que la presse a peut-être été un peu injuste avec lui parfois, voire beaucoup injuste, difficile, arrogant.
How secretive and enigmatic is a man who has released 55 records?
Voilà, ce type a fait 55 albums, 55 disques, c'est lui qui les a composés. On parle de centaines de titres qu'il a composés lui-même. Est-ce qu'on parle de personnages énigmatiques quand on parle de Frank Sinatra? Il a composé combien de titres? Pourquoi parle-t-on d'un personnage énigmatique lorsque l'on parle de Bob Dylan?
I'd say because his songs are so provocative.
Peut-être parce que sa musique est extrêmement provocatrice, parce qu'elle nous fait nous poser des questions et qu'on essaye de trouver des réponses à ces questions. Et comme tout bon artiste, eh bien, il ne répond pas forcément lui-même à ces questions. Cet aspect de don, un don artistique, un don que je qualifierais de volcanique, qui explose, que quelqu'un a, dont quelqu'un dispose, et qui nous fait se poser cette question. Mais d'où vient ce talent? Et je pense qu'il y a énormément de questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de trauma d'enfance, il n'y a pas de mentor, c'est juste là. C'est une chimie unique qui vient de sa vie et de qui il est.
Vous l'avez rencontré, vous avez travaillé avec lui. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant chez Dylan ?
Ce
qui m'a impressionné le plus, c'est qu'il a une connaissance cinématographique extraordinaire. C'est un véritable cinéphile et il était très à l'aise avec moi. Il m'a parlé ouvertement et il m'a dit « Je ne vais pas vous dire ce que vous avez le droit de dire sur moi ou ne pas dire, je vais vous donner mon avis. Voilà. » Et puis c'est vous qui déciderez ce que vous aurez bien envie de faire.
Donc,
il m'a parlé de lui, il m'a dit comment il m'a expliqué comment il se sentait à cette époque-là, des choses que les biographies n'ont pas forcément saisies à l'époque, avec des dates, des enregistrements, des concerts, des tournées. Mais est-ce que tu as écrit tel titre alors que tu étais dans ton lit ou est-ce que tu es à la tape à la machine? Qu'est-ce qui a généré telle ou telle... quelles étaient les sensations? Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est de savoir quel était le moteur derrière ce qu'il disait. Moi je ne pouvais pas imaginer qu'il faisait du rock and roll parce qu'il avait compris que c'était un point tournant dans la culture musicale mondiale. Il a joué à ce moment-là du rock and roll parce qu'il avait eu une impulsion. C'était aussi une forme de rébellion contre la figure du père. Il y avait un enjeu politique, mais c'est un enjeu politique extrêmement local, à une toute petite échelle. Newport, c'était un petit peu un dîner familial qui a mal tourné finalement. Voilà, un petit peu l'image.
Où l'aîné,
le fils, se lève en colère et quitte la pièce en engueulant son père. La sœur est gênée, la maman dans la cuisine. Cette chose qui m'intéresse. Avec ensuite l'image musicale derrière, qui est secondaire finalement. Mais ce qui est intéressant là, ce sont les personnages.
Il y a une espèce de pureté par rapport à l'époque qui serait peut-être plus possible maintenant vu l'inflation des réseaux, des commentaires, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est né à cette époque-là où la musique transmettait beaucoup de choses, beaucoup de messages.
Yes, I mean, I even think the period he was born in.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors que je dirais même que sa période, son époque, avait déjà commencé à changer. C'était une période qui était déjà moins pure que 100 ans auparavant. Où étaient les hit parades à l'époque, il y avait déjà un début de corruption. Comment être sûr qu'on va être écouté, qu'on va passer à la radio, qu'il y a de la promotion, qu'on sera sur la couverture de tel ou tel magazine. Ça se faisait déjà, mais c'était à petite échelle. Aujourd'hui, tout cela, avec à l'ère des réseaux sociaux, effectivement, on est sur stéroïdes.
C'est marrant, vous, comme Dylan peut passer du folk au rock, et vous pouvez passer d'un genre à un autre. Ok, je fais un film d'aventure. Ok, je parle du Mans. Ok, je parle d'un musicien. Vous ne voulez pas rentrer dans un genre.
I very much identify in my own humble way with Bob.
Absolument. Et à ce titre, je trouve que quelque part, je suis un petit peu comme Bob Dylan. Bob Dylan ne passe pas du folk au rock. Il passe du folk au rock, revient au folk, passe à la musique religieuse, retourne au folk. En passant par le blues, il fait de la musique de Noël également. Il a fait du jazz. Il a joué dans un groupe et avec un groupe de jazz. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il n'a pas de limite. Il est dans la multitude.
Et puis Dylan rencontre John Baez.
Je pense qu'il y avait une concurrence, une vraie forme de concurrence entre les deux. Lorsque Bob Dylan rencontre Joan Baez, c'était elle la star à l'époque. Hein. Elle était très belle, c'était une femme magnifique, elle avait une voix magnifique.
Et
lui, c'était le garçon du Minnesota avec une tête un peu bizarre, avec une voix un peu éraillée. Il avait une façon d'être en public un peu particulière. Il était un personnage auquel le public n'était pas habitué. Et je peux très bien imaginer à quel point il était fasciné par sa beauté classique, par ses compétences musicales également. Et je comprends très bien pourquoi elle était fascinée par lui, parce que lui avait ces capacités extraordinaires d'écriture explosive, volcanique.
Et
je crois qu'elle a écrit une douzaine de chansons, une douzaine de titres dans sa vie. Lui, 500, des centaines, dont certains titres qui sont immensément connus aujourd'hui.
I'll do Bobby Dylan singing Joan Baez, okay? Okay. When is to the kitchen gone? And when is to the house?
Elle a cette capacité de l'avoir aimé, de l'admirer et de savoir s'en moquer.
Je pense aussi que c'est parce qu'il lui a fait du mal. Donc on arrive à blesser, à panser ses blessures avec la satire.
But also, let's be honest, when someone is kind of the king,
vous savez, lorsque vous êtes un peu au-dessus des autres, le roi, forcément, on va se moquer de lui aussi. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de les faire descendre de leur piédestal. Parce qu'en les faisant descendre, on les humanise. Donc, quelque part, c'est un peu de l'instinct humain, rien de plus.
D'appeler son film A Complete Unknown, c'est une façon de dire je pourrais pas tout vous raconter sur lui.
Sure. But why do you does it have to mean something?
Oui, mais est-ce que ça doit vraiment vouloir dire quelque chose, ou en tout cas quelque chose en particulier? Peut-être que le titre veut dire beaucoup de choses. Il était un parfait inconnu et il est devenu extrêmement puissant. Son talent était parfaitement inconnu, son parcours, ses origines étaient parfaitement inconnues. Là où allait le monde ou là où va le monde, c'est un élément qui est absolument inconnu.
Will not make himself more known.
Voilà, ça a pu amener de la frustration. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'on a besoin de tout savoir? Est-ce que tout doit être connu? Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose sur lui-même, est-ce que vous le croyez vraiment? Mais pas du tout, pas du tout. On ne croit pas forcément ce que disent les gens sur eux-mêmes. La première réaction que j'ai parfois dire aux gens, mais tu racontes n'importe quoi, tu te fiches de moi.
C'est même suspect.
Yes.
Ben oui. I trust someone who says, I j'ai confiance en quelqu'un qui dit je ne sais pas, plutôt que de faire confiance en ceux qui disent moi je sais tout.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? Oh, where have you been, my darling young one. I stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I crawled on 6 crooked highways. I stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a heart, it's a heart, oh it's a heart.
Olivier Nuc qui dit ça, c'est Chalamet, c'est Dylan. Non, mais c'est vrai, vous avez rajouté un truc très drôle. C'est vrai que Chalamet, c'est un fan de hip-hop en plus.
Oui, c'est un mec de son âge, bah oui. Sa génération. Je ne pense pas que les jeunes écoutent Dylan. Enfin, je pense qu'ils vont l'écouter après avoir vu le film.
Mais c'est ça, c'est très important pour la jeune génération. Mais c'est extrêmement fort ce qu'il fait avec sa voix, non?
Oui, c'est très fort. Je crois que le film a bénéficié des retards pris avec le Covid aussi.
Ouais.
Je crois que ça leur a permis de...
Pendant 2 ans et demi, je crois qu'ils
s'entraînaient. Oui, de s'entraîner à chanter, à jouer de la guitare. Je crois que c'est un des bénéfices rares du Covid, c'est qu'ils ont bossé longtemps. Ouais. Et Mangold aussi, et c'est grâce à ça qu'il a pu passer autant de temps avec Dylan, parce que Dylan, il est tout le temps en tournée,
ouais.
Et là, il avait annulé beaucoup de dates en 2020, et le manager appelait Mangold en disant, bah, Bob s'ennuie, donc vous pouvez travailler ensemble. Ce qui ne serait jamais arrivé en temps normal.
Il y a un truc qu'on n'a pas dit, Olivier Nuc, c'est que c'est un grand film musical, ce film.
Oui, il y a de la musique tout le temps dedans.
Tout le temps.
Tout le temps.
Il y a 30 chansons de Dylan dedans.
Ça, c'est vraiment bien. Ça change des biopics musicaux où la musique fait tapisserie, où en fait on s'essuie un peu les pieds dessus. Là, c'est vraiment... Il y a de la musique tout le temps et des chansons... bon, des chansons géniales aussi.
Incroyable. Faut dire concentré en 4 ans.
Oui. C'est fou, hein. Non, c'est les années... C'est drôle parce que Mangold ou d'autres, on pourrait faire des biopics de Dylan sur tous les 5 ans et ce serait intéressant à chaque fois. On pourrait faire 65-70, c'est un autre film. 70-75. On peut jusqu'à 2025. On peut faire... 50 biopics, ça marche quoi.
Et ce qui est bien avec Mangold, c'est qu'il n'évite pas les fêlures ou les moments un peu plus négatifs. Il y a une scène absolument démente où Dylan Chalamet veut aller voir des types en concert. On pense qu'il va aller monter sur scène et en fait il se fait tabasser quoi. C'est aussi ça Dylan.
Avec Bobby Newhart.
Parce qu'en fait le truc point culminant de ce film, c'est la détresse de Dylan devant cette popularité aussi.
Oui c'est ça. Moi Mangold m'a dit cette phrase assez belle. Il m'a dit mais après tout. Pourquoi est-ce qu'on aurait demandé à Dylan, qui est un génie dans l'écriture des chansons, d'être un génie dans la célébrité ? Il ne pouvait pas être génial partout.
Ouais.
C'est vrai que Dylan, très vite, il se méfie de la célébrité. Il n'a pas envie de ça. Et moi, j'ai vu, la seule fois où j'étais dans la même pièce que Dylan, c'était il y a une dizaine d'années, j'avais fait des pieds et des mains pour assister à la remise de la Légion d'honneur. Je me suis posté en face de lui, je l'ai fixé pendant tout le temps que durait le discours de la ministre de la Culture de l'époque. Et regardait personne. Et regardait au loin. C'est incroyable. J'ai vu quelqu'un qui... Et puis, il était comme ça, très mal à l'aise, d'un pied sur l'autre. Donc, c'était Aurélie Filippetti qui faisait un bel éloge, assez bien écrit. Et au moment de recevoir la Légion d'honneur, il a juste dit « I'm flattered and honored, thank you ». Et il est parti. Il était... J'ai rarement vu quelqu'un aussi mal à l'aise d'être devant. On était 30 dans la salle.
Il s'en fout pas.
Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Ce type a tourné pendant 10 ans avec son Oscar sur l'ampli, sur son ampli. Il s'en fout pas du tout. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il donne l'impression de s'en foutre, mais pas du tout. On trimballe pas son Oscar sur son ampli pendant 10 ans si on s'en fout.
Ouais.
Non, je pense qu'il est très sensible. Je pense que le Nobel, parce qu'il a quand même reçu le prix Nobel.
Et pourquoi il est pas allé alors ?
C'est drôle parce qu'il y a des années avant, quelqu'un lui a demandé, mais vous pourriez avoir le prix Nobel. Et il a dit, mais non, c'est pas possible, c'est une blague. Je pense que. Bah, il a pas envie qu'on lui demande alors ça vous fait quoi le Nobel. Il a pas envie.
C'est pas une posture.
Je crois pas. Je crois que c'est un mec qui a envie d'être tranquille. Non mais vraiment, ce qu'il a jamais été depuis l'âge de 20 ans. Je pense qu'il faut se représenter ça. C'est ce type, à partir du moment où il arrive à New York et il s'invente une nouvelle identité, parce que quand il est dans le Minnesota, c'est Robert Zimmerman, à New York, c'est Bob Dylan, c'est quelqu'un d'autre. Mais il est ce quelqu'un d'autre depuis 65 ans. Et pour tenir, c'est quand même la rockstar, parce que c'est une rockstar, qui a su le mieux préserver sa vie privée, de tous. Ses enfants, on en connaît certains, parce qu'il y en a un qui est réalisateur d'ailleurs. qui a réalisé American Pie et des films américains comme ça, qui est son fils aîné, Jesse.
Oui.
Il y a Jacob, un des plus jeunes qui était dans les Wallflowers, mais les autres, on ne les connaît pas. Sarah, son épouse, dont il s'est séparé en 75, n'a jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, elle est absente du film alors qu'elle était déjà enceinte quand il joue à Newport. Mais je pense qu'il y a un deal pour qu'elle n'apparaisse nulle part. Je pense qu'ils ont signé au divorce un contrat pour qu'elle ne soit citée, qu'elle ne soit jamais citée. Mais elle est là. En fait, elle remplace Joan Baez dans le cœur de Dylan dès la fin 64, début 65. Ça, ce sont ces ellipses-là qui font le personnage.
Dylan, un mec bizarre qui peut se multiplier par 6, comme dans le film de Todd Haynes, qui est absolument génial, I Am Not There, hein, loin du biopic traditionnel, déconstruit, halluciné, donc c'est vraiment l'antithèse. Todd Haynes qui dit ce truc super, il dit « Personne ne peut approcher la vérité de Dylan sans passer par la fiction. »
I tell you, love and sex are two things that really hang people up. And why that is, well, I'll never fully understand.
C'est une très belle idée de faire jouer Dylan par un jeune acteur noir. D'ailleurs, Dylan aurait pu être noir, non ?
Il aurait pu être noir, mais dans ce cas, il serait passé pour un blanc. Dylan a toujours été dans le déguisement, même au tout début, dans les premières expressions de sa nouvelle identité et de son nom, Bob Dylan, qu'il s'est choisi lui-même très jeune. C'était dans l'esprit de tout ce qu'il idolâtrait. Il adoptait ce genre de jeu dans sa propre vie. Je suis allé un peu plus loin en choisissant un enfant noir. Et personne ne s'en rend compte parce que l'exubérance simple et pure de son jeu d'enfant est si palpitante que personne ne se soucie qu'il mente.
Dylan aurait pu être une femme.
Il aurait pu être une femme, mais ce n'est pas nécessairement cela qui m'a poussé à choisir Cate Blanchett pour incarner Dylan. Je voulais être transporté en 1966 quand il n'était ni homme ni femme. C'est comme s'il avait échappé à tout genre sexuel. Ses gestes étranges, son corps incroyablement fin, sa coiffure imposante et sa flamboyance sur scène, avec des doigts excentriques, inconstants, et son corps comme une petite marionnette qui se balançait, personne n'avait vu cela auparavant. C'est un des moments les plus connus quand on pense à Dylan. Et ce qui arrive avec ce genre d'instant, c'est qu'ils perdent leur pouvoir choquant parce qu'ils sont célèbres et qu'on les a vus des millions de fois. Je devais donc injecter quelque chose d'étrange et d'original dans leur regard que l'on porte sur cette scène.
Un anti-biopic passionnant, Olivier Nukin, ce film de Todd Haynes.
Voilà encore. Moi, la première réflexion que je me suis faite en sortant de la projet du Mangold, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a tout compris à Dylan. Et I'm Not There, voilà aussi quelqu'un qui a tout compris à Dylan. Et c'est pas si fréquent. Il y a un gros malentendu, Dylan, comme je le disais tout à l'heure, avec. Les gens essaient de le réduire, mais c'est un type. Il a quand même écrit et chanté la chanson « I contain multitudes ». C'est une signature. Tout est là. Il a toujours échappé, il s'est réinventé. Je pense que c'est comme le requin. S'il est statique, il meurt. Dylan, j'ai un ami qui a joué avec lui, qui a cette définition géniale. Il dit « Le train de Dylan ne s'arrête pas en gare ». C'est quelqu'un qui trace, qui avance, quelles que soient les conséquences.
Quitte à laisser des cadavres sur le côté.
Oui, il y en a plein. Mais ce que j'aime aussi dans le Mangold, c'est qu'il n'est pas toujours sympathique.
Non.
Il a une arrogance, il a une espèce de morgue. Et puis, j'adore la scène quand Joan Baez le fout dehors du Chelsea Hotel. Quoi. C'est vraiment. Je pense qu'elle a été la seule à lui tenir tête. Et je pense qu'il l'aime aussi pour ça. Je pense qu'il l'aime profondément pour ça. Je pense qu'il fait partie de ces gens, on en connaît tous, ils vous respectent si vous leur tenez tête. Ouais. Sinon, ils vous dévorent.
Il y a un grand cinéaste, très grand cinéaste américain qui est fou de Dylan, c'est Scorsese. Il a même fait deux docs sur lui. Le premier, c'est No Direction Home, en 2005, 6 heures. Mais en fait, c'est pas lui qui a interviewé Dylan.
Non, ça c'est assez extraordinaire. C'est Jeff Rosen, qui est le manager de Dylan depuis le début des années 90, qui a un jour filmé Dylan pendant des heures, comme ça, avec un petit éclairage, en lui posant plein de questions sur cette période-là. Il a appelé Scorsese, il a donné les rushs. En gros, il a pris le meilleur technicien auquel il pouvait penser. Il lui a dit, voilà, tu me fais un film avec ça. Et le Scorsese s'en est sorti mieux que bien avec No Direction Home.
Qu'est-ce que ça raconte, ça, en fait, du coup, cette idée de que
Ça raconte le contrôle absolu.
Voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça correspond... Il y a une bascule d'Ilan. Dans les années 80, il est managé par un homme qui s'appelle Elliot Roberts, que j'ai très bien connu, parce qu'il était le manager de Neil Young, et aussi de Tom Petty et d'autres. Et ils ont fait des choses, mais il n'y arrivait pas vraiment. Il me racontait, il me disait par exemple, il me dit un jour, j'avais un coup de fil de Bob qui m'appelait, qui me disait « Elliot, je veux absolument qu'on joue dans cette ville. Mais Bob, on y a joué il y a 3 semaines. Je m'en fiche, je veux jouer là. » Donc c'était quand même ingérable. C'est un type qui est un peu des tocs aussi. Et il a trouvé Jeff Rosen, qui est un juriste à la base. Et Jeff Rosen, il a commencé, en gros, sa réflexion, ça a été de dire « Dylan a 50 ans. » Et on doit maintenant le traiter, en gros, lui ériger une statue. Ce que Dylan ne veut absolument pas faire. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu gentil flic, méchant flic. Dylan, il fait là. C'est en gros, toi, tu écris des chansons, tu vas sur les routes, tu fais ton job, et moi, je m'occupe de ta postérité. Donc, il y a eu ce concert au Madison Square Garden en 92, avec tout le monde, mais de Johnny Cash à Pearl Jam, tout le monde qui lui rend hommage. Il y a eu le début des Bootleg Series en 91, avec ses enregistrements. C'est en fait une discographie parallèle de Dylan avec des tas de morceaux qu'il a laissés de côté, parce qu'il en laisse plein de côté. On est à 17 volumes aujourd'hui. C'est-à-dire que Jeff Rosen, il construit la statue de Dylan. Mmh. Et dans cette construction, il y a aussi un parfait inconnu, puisque Rosen intervient. Il y a...
le contrôle est partout, contrôle en est fait partout.
Mais Dylan, lui, s'en sort en... On dit ça pour le Scorsese aussi, et puis le... Oui, il est... Alors moi, j'ai assisté à une dernière anecdote, parce qu'elle est assez drôle. On m'a invité à une conférence de presse à Londres, dans un pub, pour qui allait expliquer le contenu du nouveau coffret Bootleg Series de Dylan. Et donc, Jeff Rosen arrive. Bonjour, je vous préviens, je ne souhaite pas... Je vous demande de ne pas citer mon nom dans vos articles. C'est du Dylan. Le type est là, physiquement, il dit « Je suis Jeff Rosen, je vais vous expliquer ce qu'on va sortir, mais ne parlez pas de moi. » I'm not there.
Oui, indeed. C'est ça, il y a plein d'images en fait, parce qu'il faut aussi parler, on va conclure avec ça, mais Rolling Thunder Review, Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Donc, c'est un vrai faux doc, parce qu'il y a plein de mensonges dedans.
Oui, puis il annonce la couleur dès le début, Dylan face caméra, qui dit... pour dire la vérité, il faut porter un masque. Mmh. Donc voilà, après, c'est la porte ouverte à... Il y a plein de mensonges, il y a plein d'inventions, il y a plein de manipulations, mais c'est un délice, c'est un régal. On sent ces deux Américains qui sont quand même des parangons de la culture américaine aujourd'hui. Moi, je l'ai même un peu sur le même niveau. Dylan Scorsese, même génération, même impact, qui s'amusent comme des petits fous à faire un canular. En faisant un film génial, avec encore une fois, des rushs géniaux. Ça, c'est des rushs que Dylan n'avait pas utilisés. Qui était un peu resté sur le carreau, ils ont dit, on va en faire une farce.
Et peut-être, et même avec la collaboration de Sharon Stone, mais avec l'accord de Dylan, ils se seraient rencontrés, ils lui auraient proposé de tourner avec... Ils s'amusent, quoi.
Mais complètement, mais c'est deux garnements, quoi. Et c'est génial, à 70 ans passés, c'est ça. Bravo.
Ouais.
Ça s'appelle Un parfait inconnu, c'est un très beau titre aussi, sur Dylan.
Oui, c'est un extrait de la chanson Like a Rolling
Stone. Oui, bien sûr. James Mangold, et c'est sorti mercredi. On se retrouve pour les sorties après Things Behind Things, Behind Things. Ça tombe bien avec Dylan.
I get caught looking in the mirror on the regular. And what I see there resembles some competitor. I see things behind things behind things. And there are rings within rings within rings. I can't go through the motions, I can't go through the motions. How am I
supposed to do this now? Say we went out strolling, say we went out strolling, say I went and told them how. I am afraid of changing, and when it comes a time to check and rearrange, there are things behind things behind things, and there are rings within rings within rings. I got caught compiling, I got caught compiling, I got caught compiling my own news. I never lose, and who's the benefactor, and how to move without touching every interactor, when there are things behind things behind things. There are rings within rings within rings.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
C'était Bon Hiver et puis Olivier Nuc, vous aimez bien ce morceau et cet artiste. Je voulais signaler absolument, parce qu'on aime beaucoup cette revue, ces cinéma teasers, avec Chalamet en couverture, mais surtout une belle interview profonde, nourrie de James Mangold, et surtout une rencontre avec son directeur photo, Fedon Papamichael. Cinéma teaser dans tous les bons kiosques.
Kiosque, comme Légende, le numéro spécial consacré Bob Dylan.
Ouais.
Très beau numéro.
On va parler des sorties maintenant. Laurent, on va commencer par La Pivoleuse, le 24e film de Robert Guédiguian avec sa troupe habituelle, Ascaride, Daroussin, Mélan, Stévenin, Grégoire le Prince Ringuet. Marianne est plutôt jeune et aide des personnes plus âgées qu'elle, c'est Ariane Ascaride. Tirant le diable par la queue, elle ne se résout pas à sa précaire condition et par-ci par-là vole quelques euros à tous ces gens dont elle s'occupe avec une dévotion extrême et qui pour cela l'adore. Pourtant, une plainte pour abus de faiblesse conduira Maria en garde à vue, un conte, une fable sociale et bien sûr la bienveillance de Guédiguian sur les oubliés du capitalisme.
Oui, serions-nous tous voleurs? C'est peut-être la question qui traverse tout le film avec cette petite voleuse, comme auraient dit Truffaut et Miller en leur temps. Alors, évidemment, celle de Guédiguian ne vise en rien l'enrichissement personnel, puisque, au fond, elle vole pour... par gourmandise, pour se payer quelques huîtres, et puis surtout pour payer des cours de piano à son petit-fils. La musique libère toujours dans le cinéma de Robert Guédiguian, et c'est toujours très beau, je trouve. Bref, c'est plutôt une sorte de Robin des Bois de l'Estaque, et de ce point de vue-là, eh ben, c'est à nouveau un portrait à la fois social, tendre, aimant, contre l'hypocrisie sociale, qui fait encore appel, et tant mieux, à Victor Hugo, pour, au fond, peut-être réchauffer nos consciences endormies. C'est toujours, toujours précieux de voir un nouveau film de Robert Guédiguian. Celui-là s'appelle La Pivoleuse.
Et celui-là s'appelle Le Jardin Zen. C'est un premier film de Naoko Ogigami, enfin premier film à être distribué en France.
Parce que c'est le 9e sinon.
Oui, tout va pour le mieux dans la vie parfaitement réglée de Yoriko et de tous ceux qui, comme elle, ont rejoint la secte de l'eau, jusqu'au jour où son mari revient à la maison après de nombreuses années d'absence. Le poids de la société patriarcale japonaise, une femme rebelle, et même plus que cela dans cette satire sociale et drôle. Hein.
Oui, absolument. Alors, cette femme, elle s'est installée, d'où le titre, un jardin sec, comme on appelle, à base de sable et de rochers, qui est censé apporter la sérénité. C'est pas vraiment ce que lui apporte le reste du monde. Hein. Elle est au fond, au centre d'une série d'agressions extérieures qui sont tout à fait le reflet, certainement, pour le réalisateur, en tous les cas, de la société japonaise. Et ça donne un film, c'est pas toujours le cas des films japonais, mais très drôle, avec un humour, un cynisme, un humour à froid, une distance qui sont absolument remarquables. Alors, on ne dira rien, évidemment, rassurons-nous, je rassure les auditeurs, sur la fin, sur la scène finale du film, mais elle est parfaitement à la hauteur de ce film. Absolument singulier et étonnant. Ça s'appelle Le Jardin Zen.
Ça, c'est un vrai premier film. Julie Setet, du Belge Leonardo Vandil. Julie, une star montante du tennis, évoluant dans un club prestigieux, consacre toute sa vie à son sport, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, lorsque l'entraîneur qui pourrait la propulser vers les sommets est suspendu soudainement et qu'une enquête est ouverte, tous les joueurs du club sont encouragés à partager leur histoire. C'est un parcours jusqu'à la renaissance, courage et dignité de cette joueuse. C'est subtil, c'est juste un petit peu lent. Mais c'est un film que devraient regarder tous les jeunes sportifs, en fait.
Ah oui, oui, oui. Alors, sur le papier, c'est un premier film belge vu à la semaine de la critique à Cannes et produit par les Dardennes. Bon, ben, ça vaut mieux que ce carcan festivalier et autoriste, franchement. Alors certes, le réalisateur surfe sur des thématiques post-MeToo très à la mode en ce moment, mais il le fait, et c'est ça qu'on lui demande, de façon cinématographique, avec un pari qui est, au fond, de parler d'une personne et de montrer une personne qui se tait. Ouais. Voilà, qui est donc dans la solitude. Et la première scène de ce point de vue-là est parfaite. Elle a des relents de Timbuktu. C'est cette jeune femme qui joue au tennis avec une balle fantôme et contre un adversaire fantôme. Ça, c'est formidable. Et elle ajoute à un autre moment, j'aime le tennis parce qu'on y joue seul. Phrase extraordinaire, évidemment. Et au fond, c'est un peu penser contre soi-même, ben c'est jouer contre soi-même. Et de ce point de vue-là, aussi, le film est une réussite.
Sing Sing de Greg Quédard, incarcéré à la prison de Sing Sing pour un crime qu'il n'a pas commis, Divine Jay se consacre corps et âme à l'atelier théâtre réservé aux détenus. À la surprise générale, l'un des caïds du pénitencier, Divine Eye, se présente lui aussi. C'est inspiré d'une histoire vraie, interprétée à 85% par d'anciens prisonniers ayant participé à ce dispositif, comme Clarence McLean, surnommé Divine Eye. C'est une approche documentaire authentique, là.
Oui, alors c'est une sorte de feel-good movie carcéral, hein, on pourrait dire ça comme ça, découvert au dernier festival du film américain de Deauville. Et de ce point de vue-là, le programme est tenu. Il y a quelques belles scènes qui sont les sortes de passages obligés de la bienveillance, à la fois de l'enthousiasme que peuvent provoquer certaines situations. Le revers de cette agréable médaille, ben c'est un aspect un peu lisse, un peu convenu, un peu convenable. Peut-être on aurait aimé un peu plus de lâcher prise.
Ça s'appelle Sing Sing. Sing Sing. Celui-là s'appelle Slocum et moi. Il est signé d'un homme de 85 ans, Jean-François Laguenny, qui reste le roi du genre de l'animation. C'est de la 3D, la 2D. Début des années 50, sur les bords de Marne, François, un jeune garçon de 11 ans, découvre que ses parents entament dans le petit jardin familial la construction d'un bateau réplique du voilier du célèbre marin Joshua Slocum. Au long des années, le jeune François va voguer d'adolescence à l'âge adulte au fil de la construction de ce bateau. Il a créé lui-même tous les décors, les accessoires et bien sûr les personnages en s'inspirant des photos de Doisneau ou des metteurs en scène comme Carné ou Duvivier.
Absolument, c'est une petite merveille. On peut aller le voir de 7 à 77 ans. Non, pardon, 90, 80, 100 ans, je ne sais pas, vu l'âge de Laguenny, son auteur. Mais c'est vraiment un film qu'on peut aller voir en famille parce qu'il a un charme extraordinaire. Avec une vraie nostalgie, vous le disiez, sur le cinéma dont vous parliez, c'est vrai. Mais en même temps, ça ne se réduit pas à ça. Il y a une sorte de vrai voyage intérieur. C'est l'histoire d'un bateau dans un jardin. Tiens, on a déjà vu ça chez Beauvois, mais c'est peut-être... à la fois plus mélancolique et plus profond chez Laguenny. C'est un rêve d'enfant et un rêve d'adulte, un récit familial aussi. Bref, c'est tout ça à la fois, et c'est pour ça que ça fait la magie intégrale du cinéma de cet auteur.
Encore un programme pour les enfants en sortant de l'école, à nous le monde, 13 courts-métrages d'animation dont la proposition est d'associer 13 poèmes animés par de jeunes cinéastes, Laurent.
Oui, alors 40 minutes, hein, c'est-à-dire 40 minutes, donc on peut le recommander à des tout-petits, à partir de 6 ans, dit-on. C'est 13 courts-métrages, 13 poèmes sur le thème de la nature et de l'enfance. Bon, ben c'est forcément inégal, parce qu'évidemment, il y a 13 auteurs, donc c'est normal. C'est aussi un peu frustrant, parce que 3 minutes par film et par poème, parfois on a envie d'en savoir et d'en avoir un peu plus. C'est parfois un peu trop sage, un peu trop attendu, mais en l'état, franchement, c'est un joli programme d'animation.
Le choix du pianiste de Jacques Otsmesgin. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, François Touraine, grand virtuose du piano, n'a d'autre choix que de partir jouer en Allemagne pour sauver la femme qu'il aime, sa professeure. Rachel est juive. À son retour en France, il n'est plus que l'ombre de lui-même lorsqu'il rencontre Annette. Elle fera un geste incroyable pour lui permettre de remonter sur scène. Un récit assez didactique, en fait, non ?
Oui, on songe évidemment le choix du pianiste, on songe, vu l'époque, au choix de Sophie, et ça en a un peu aussi la problématique qui passe ici par une sorte d'académisme engoncé dans une esthétique audiovisuelle à la limite, pour moi, en tous les cas, presque de la laideur, et le tout porté par un casting, disons, improbable, voilà, avec un Herbert von Karajan dont je ne peux même pas vous parler. Bref, ce choix-là, on peut s'en dispenser.
En revanche, on ne se dispense pas de...
Oh que non.
D'apprendre de Claire Simon, qui a posé sa caméra dans l'école élémentaire Makarenko à Ivry-sur-Seine, un lieu où chaque enfant est invité à inclure l'autre, plus le regard aiguisé et généreux de Claire Simon sur ses enfants.
Un petit bijou citoyen.
Apprendre. Et puis une réédition signée Satir Gitray, La Maison et le Monde.
1984, version restaurée. Une femme dans le banc de 1905 s'ouvre aux idées politiques et aux sentiments. C'est absolument merveilleux.
Avant d'offrir un cadeau à Olivier Nuc, qui est gentiment venu parler de Bob Dylan, deux festivals, Laurent.
Oui, du 4 au 11 février, on ira dans 15 cinémas de Rennes Métropole et au-delà pour le festival Travelling, une fenêtre ouverte sur la ville-monde, avec notamment un coup de projecteur sur Stockholm au cinéma, et puis des ciné-concerts dont La Charrette Fantôme et Le Roi et l'Oiseau, c'est un programme très alléchant à Paris cette fois, du 7 au 9 février. Eh bien, le cinéma L'Entrepôt, le célèbre, le mythique cinéma L'Entrepôt, rue Francis de Pressensé, proposera dans le cadre de Regard d'Iran, 7 films inédits iraniens en France.
Et on termine, on a quelques minutes, quelques secondes, un peu plus que ça, pour le cadeau.
Pas un film musical, mais un chef-d'œuvre, Les Sept Samouraïs. Olivier Nuc 2, d'un certain Akira Kurosawa, évidemment, édité par The Jokers.
Merci.
Et c'est le coffret des 70 ans du film, version restaurée, 4K, coffret Blu-ray, avec un livret de 334 pages et 2 heures de bonus. C'est absolument fabuleux.
Merci beaucoup, merveilleux.
Merci à vous, Olivier.
Merci, Olivier Nuc, d'être venu parler de ce film et d'autres, d'ailleurs, sur Dylan. Ouais. Ce film Un parfait inconnu qui est sorti mercredi, on va dire. Merci à notre belle équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louise Tempero à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir. Merci.